Donc, Luc, si je comprends bien, les arbres ont le dos large en matière de captation de carbone.
Oui, ben, tu sais que les arbres, ça a beaucoup été utilisé comme une mesure spontanée, volontaire, d'effacement de l'empreinte carbone, notamment lorsque tu prenais l'avion. Mm-hmm. J'avais révélé la semaine passée que c'était un peu du greenwashing, parce qu'un vol Montréal-Paris, c'est 4 petits arbres à la grosseur d'un pissenlit, puis la possibilité que ces arbres-là poussent, ben, c'est ce qu'on nous proposait, en tout cas, là, que 4 petits arbres à la grosseur d'un pissenlit, un brocoli peut-être, même pas entre les deux. Mm-hmm. Puis là, la possibilité qu'il pousse était faible parce qu'il y a des espèces envahissantes, parce qu'il n'y a pas assez d'argent quand tu mets seulement 4 $ par arbre pour faire du carottage, pour voir si la terre est fertile, est féconde, puis est profonde. Puis on l'a vu à Boucherville, là, ils ont planté 15 000 arbres, il y avait 3 pouces de terre, puis en dessous, il y avait du roc.
Fait que les arbres sont morts.
Ben, les arbres sont morts, mais le gars qui a planté ça...
Ça se fait qu'il n'a pas fait de carottage.
Ben, voilà, ben, c'est parce que le coût qui lui est donné pour sa tonne de carbone n'est pas suffisant. Alors, on est un peu dans l'approximatif. Mais là, quand on a les deux premiers ministres, celui du Québec, celui du Canada, qui disent que c'est la solution pour effacer l'empreinte carbone de très gros projets polluants, dans le cas de Trudeau, c'est le pipeline, dans le cas de Legault, c'est GNL Québec. Là, on se dit, ben là, il va falloir passer aux choses sérieuses. Et puis là, quand on voit des inspecteurs sur place... L'enquête de la presse a permis de démontrer, puis même de sensibiliser un gros joueur comme la FTQ Construction, le fonds de la FTQ, pour leur dire, ben, écoutez, l'argent que vous pensez mettre là-dedans, les achats de carbone que vous faites, ça donne tel résultat, est-ce que vous êtes satisfait de ça? Et eux se sont retirés. Alors c'était pas à Boucherville, c'était dans le petit village de Saint-Malo, près de la frontière. Des arbres ont été plantés, oui, puis ils poussaient, oui, mais là où on venait juste d'abattre des arbres matures. Alors, la certification Gold Standard ne permet pas de dire, je te permets de couper n'importe quoi, après tu vas planter puis tu vas dire, je m'en lave les mains. Non, 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 la forêt que tu as coupée avait une absorption carbone notable. Et donc, le fait de les remplacer par des petits arbres, soit, mais c'est une entreprise industrielle. Ça n'a pas un effet carbone important. Mmh. Et ce qu'ils disent, eux, c'est qu'il faut qu'il y ait 10 ans, un terrain qui a 10 ans sans plantation dessus, pour dire, OK, à cet endroit-là, la plantation d'arbres est justifiée.
Mais Luc, on comprend la manœuvre politique, là, on comprend l'intérêt des politiciens à dire, oui, écoutez, on va permettre un projet là, qui un pipeline, qui GNL. Oui, c'est vrai, là, ça va faire hausser notre niveau de GES, mais on va planter des arbres. C'est fantastique. Qui peut être contre les arbres?
Puis quand tu parles de... C'est exactement ça. Puis quand tu parles de 2 milliards d'arbres, comme le fait Trudeau, mais là, on est encore plus dans le cynisme que ce que tu viens d'illustrer. Parce que là, 2 milliards, ça ne sera pas des arbres surveillés, arrosés, élagués, protégés contre les espèces envahissantes, protégés contre les insectes ravageurs. Quand tu es rendu à 2 milliards d'arbres, c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la société civile est forte. Les professeurs d'université sont aux aguets. Les entreprises environnementales sont aux aguets. Les journalistes sont aux aguets. Alors, on est dans un vrai débat. On est dans une vraie discussion. Ça va vraiment évoluer, puis moi, je me réjouis.
OK, parfait. Parle-moi des craintes des maires, mairesses des grandes villes face à l'élection possible d'un gouvernement dirigé par Andrew Scheer.
Bon, alors, tu sais qu'Andrew Scheer a promis de couper les impôts. Il y a aussi, dans son cadre financier qui nous a été révélé vendredi passé, a aussi promis de couper le déficit. Si tu coupes le déficit, puis tu coupes les impôts, puis tu mets de l'argent pour les infrastructures, notamment pour les projets pétroliers, ben là, il faut que tu trouves beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent quelque part. La somme, c'est 69 milliards de dollars. Alors, pour aller chercher 69 milliards de dollars, Andrew Scheer a révélé plusieurs choses qui semblent improbables à beaucoup de monde. La première chose, c'est de couper dans les dépenses de fonctionnement d'abord, dans un premier temps, en immobilisant les dépenses de toute la fonction publique. On se rappelle de la réingénierie de Charest, on se rappelle de la coupure de Parizeau de 20% des dépenses des fonctionnaires, et on se rappelle du déficit de zéro de Lucien Bouchard, on se rappelle du déficit de zéro de Couillard. Ce sont des opérations extrêmement complexes qui font très, très mal et dont les résultats ne peuvent se matérialiser que s'il y a de la croissance. Et ça, c'est la grande leçon à retenir de l'analyse qui avait été faite par Fortin en 2016.
Pierre Fortin, l'économiste. Ouais, là, ouais.
Tu peux y arriver si tu as de la croissance. Quand tu n'as pas de croissance puis tu coupes en même temps, c'est parce que là, tes revenus diminuent en flèche. Tes revenus diminuent en flèche. Puis toi, tu veux en plus couper les dépenses, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Alors, si Scheer est chanceux, il n'y aura pas de récession. Puis s'il est très, 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 très chanceux, il va arriver à faire ça. Mais ce qu'il va arriver à faire ça, à la hauteur de 69 milliards de dollars, la question est posée. Mmh. Et là-dedans, il y a un 14 milliards de dollars sur le programme des infrastructures. On va prendre le temps de l'expliquer, là, ce 14 milliards de dollars-là. Lui, ce qu'il dit, c'est « je ne suis pas un fou ». Puis c'est bien, parce qu'effectivement, on aurait pu penser « OK, je coupe toute la patente ». Non, c'est pas ça qu'il propose. Ce qu'il propose, c'est un lissage sur 15 ans au lieu de 12 ans du 187 milliards qui avait été promis par Trudeau. Là-dedans, il y a un 40 % de projet qui n'a pas encore été donné. Le reste a déjà été donné, je vais le respecter. Mais je vais le lisser sur 15 ans. Le problème, c'est ce qu'il dit, c'est que je vais commencer par couper les projets qui sont promis dans les 4 prochaines années, puis je vais remettre des projets après quand j'aurai atteint mon déficit zéro. Mais on l'a vu que son déficit zéro, il est chambranlant en maudit. Fait qu'on a très, très peur que les projets qu'il va remettre dans la machine 4 ans après, il arrive jamais.
Des projets comme le tramway à Québec, hein, il y a 800 millions pour ça. Il y a aussi des millions pour Montréal pour des projets de transport.
Le fameux échange qu'avait fait Valérie Plante en disant, moi, le 800 millions qui avait été réservé pour le Canada, je le donne à Québec, mais sur les 4 années qui vont suivre, vous allez me le redonner. Mais là, c'est loin d'être sûr que ça va être redonné. Il y a aussi Vancouver qui s'inquiète terriblement. Vancouver qui n'a même pas été capable de rencontrer Andrew Scheer. Imagine-toi, en campagne électorale, le maire de Vancouver demande à 3 reprises de rencontrer Andrew Scheer. Andrew Scheer refuse de le rencontrer. Il faut dire que c'est un ex-NPD, ce gars-là. Mais ça donne un peu le ton. Là. Ça donne le ton de Andrew Scheer ne fait pas de promesses aux municipalités, même s'il s'en défend, même s'il dit tout va bien aller. On a des grosses, grosses craintes.
OK, parle-moi du nouveau centre pour itinérants au Square Cabot.
Oui, donc le centre qui s'appelle la Résilience Montréal et qui va être dirigé par Nakousset, la directrice générale du foyer pour femmes autochtones de Montréal. On s'en sert de leçon sur comment apprendre d'une situation. On se rappelle que Open Door a coupé son projet, ben, a été obligé de fermer son projet.
Ça a déménagé, non?
Oui, il a déménagé sur le plateau Mont-Royal.
Ah, OK.
Comprends-tu que moi, j'étais aux premières loges pour voir comment ça s'est fait. Et il y a eu 14 morts, crimes, tu sais, pas la Syrie, là.
14
morts au Square Cabot depuis 2 ans, donc 4 en décembre passé. Et pourquoi? Parce que ce sont des gens lourdement intoxiqués, ils n'ont même pas de place pour aller dormir, ils dorment dehors. Le jour, pas d'endroit pour aller se réchauffer, pas d'endroit pour aller aux toilettes, pas d'endroit pour avoir des injections supervisées pour la dope qu'ils prennent. Alors, le mauvais projet, c'était le projet du début. Donc, moi, j'étais dans cette administration-là, j'ai vu ce qui s'est passé. Ça ferme, il y a le petit groupe, qui est un groupe catholique, charitable, anglo-protestant, qui dit, nous autres, on va rouvrir ça dans une autre église. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Ils reçoivent 26 000 $ par année. On dit, OK, c'est correct, on va vous aider. On leur augmente un petit peu le budget d'opération. On les aide à se réinstaller dans une église. Zéro patate, rien de plus. Les Autochtones n'ont pas suivi. Le projet a de la misère. Ça ne fonctionne pas tellement bien. Deuxième essai. Pourtant, à ce temps-là, on disait, ça ne marchera pas. Attention, ça ne marchera pas. Puis les pressions, oui. Mais là, deuxième essai après les 14 morts, là, c'est bien parti.
Qu'est-ce qui a fait que ça s'est mieux parti?
Bien, c'est de réaliser que c'est un échec total sur toute la ligne.
Et là, le nouveau centre, il est au Square Cabot.
Il est au Square Cabot. Okay. Il est temporaire, mais il va avoir une psychologue à l'intérieur, une psychologue à l'extérieur. Il y a un groupe autochtone qui le supervise. Il va y avoir des travailleurs sociaux. Puis, il va y avoir, il y a un groupe d'architecture qui travaille avec eux pour transformer les lieux. Parce que là, pour l'instant, celui, c'est le plateau Mont-Royal. C'est un sol d'église avec des toilettes qui ont été construites en même temps que l'église. Puis, that's it, là. Les gens sont sur des bancs, on leur donne un peu de café. Là, il y a un groupe d'architecture qui s'appelle Architecture sans frontières, un dénommé M. Demers, qui travaille sur le projet à toute vitesse, cherche des fonds lui-même. Il ne fait pas juste prendre le contrôle, il cherche des fonds pour... il s'implique bénévolement pour essayer de faire avancer, arriver ce projet-là. Là, Mme Nakousset, c'est une dame qui est impliquée depuis des décennies auprès de la population autochtone, elle les connaît très bien, sait l'ampleur des ressources. La Ville de Montréal va concéder les ressources, le projet est bien parti.
Est-ce qu'on parle de millions et de dizaines de millions?
Eh non, c'est justement ça.
C'est combien?
Peanuts. C'est des peanuts. Je te disais que c'était 26 000 $ le projet de Open Door. Mais le multiplie ça par 5 ou 6, peut-être. J'ai pas les chiffres devant les yeux, là. Mais c'est pas...
C'est même pas un demi-million de dollars.
Ah non, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Mais, c'est ça.
Mais tu vois, en matière de lutte, là, écoute, pour les Autochtones, l'itinérance autochtone, on comprend qu'il y a des enjeux là, qui sont très profonds, okay? Qui sont d'une nature différente d'autres types d'itinérance. Mais moi, j'ai été très surpris. J'ai fait une chronique là-dessus il y a quelques mois, là. On se demande, oui, mais comment on sort les gens de la rue, thérapie, etc. Ben, il y a un programme qui s'appelle Programme Logement Montréal, c'est financé par le fédéral. Mm-hmm. On donne un logement si tu te qualifies, là, on te donne un logement, puis à partir de là, on bâtit, taux de succès de 93 %.
Inouï, hein? Incroyable.
Formidable, hein? Tu ouais, penses à ça. Hey, t'es un itinérant, comment on te sort de la rue? Ben, on te donne un logement, tu payes à même ton chèque d'aide sociale, là, t'en payes une partie, là. Mais la base, c'est de te redonner un toit.
Oui, ça, ça va être bon, tu sais, pour une partie de ta clientèle-là, notamment les femmes autochtones capables de se débrouiller, pas encore tomber complètement dans la toxicomanie. Il y a une tranche qui va aller dans ces logements-là. Il y a une autre tranche, ça va être des OBNL qui vont les soutenir. Il y a des gens qui font la tournée des logements, puis qui, il y a une cafétéria commune, etc., parce qu'ils ne sont pas capables de se faire à manger. Tu sais, il y a des exemples, là. Par exemple, on a mis des gens dans des logements, comme ça, ça fonctionne très bien. 10 ans plus tard, tu retrouves le gars, puis tu dis, waouh, ça se peut pas, ce gars-là, c'est un itinérant. Il y a d'autres exemples où l'itinérant, il rentre là-dedans. Imagine-toi donc qu'il se couche dans la cuisine. Puis parce qu'il veut pas, le logement est trop grand, il n'a pas aménagé sa chambre, il veut pas se coucher dans sa chambre, il trouve pas l'argent, il arrive jamais à budgéter pour s'en faire s'acheter de la bouffe, continue d'aller dans les soupes populaires, etc. Pour lui, ça marche pas. Pour lui, ça prend un peu plus de soutien. Ouais. Puis tu as le centre de répit comme celui-là qui va être fait. Ça prend une chaîne de ressources, dont l'ultime ressource est le logement. Puis cette chaîne de ressources-là, elle commence avec le répit. Et le répit, il faut y faire, en prendre soin. Et c'est ce que Mme Nakusset va faire.
Puis la leçon dans ce que tu dis, je pense que c'est ça prend pas nécessairement des centaines de millions de dollars pour régler des problèmes comme ça. Là. Des fois, les solutions sont simples. Puis tant qu'à parler d'itinérance, juste dire, je te le dis à toi et aux gens qui nous écoutent, dans 40 minutes à 18h, Jean-Marie Lapointe, l'animateur de Face à la rue, excellente émission à TVA, là, où on va à la rencontre des itinérants, on raconte leurs histoires, on les humanise, mais il va être en studio, on l'interview, il passe la dernière demi-heure avec moi et Catherine Beauchamp. Merci, Luc.
Je vais écouter ça, Patrick.
Excellent week-end, mon vieux.
Aussi.
17h23, presque.